Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des béatitudes. Et nous allons donc commencer par lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 17 à 26. Descendant avec eux, il s'arrêta sur un endroit plat, avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus leur dit « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque des hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. » C'est en effet de la même manière que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous tenez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les faux prophètes.
Aujourd'hui, nous retrouvons Jésus enseignant avec le sermon dans la plaine, l'équivalent de ce que l'on appelle le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Jésus étonne par ses actes de guérison comme par ses paroles d'autorité. Le chapitre 6 de l'évangile de Luc, que nous avons lu tout à l'heure, commence avec deux querelles concernant le sabbat. Jésus transgresse la loi du sabbat. Il étonne et surtout il scandalise. Les disciples de Jésus ont arraché et mangé des épis un jour de sabbat. Ils ont fait, disent les pharisiens à Jésus, ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Et Jésus leur répond en disant « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Même querelle sur le sabbat à propos d'une guérison. Jésus, comme un fait exprès, guérit un homme à la main sèche un jour de sabbat. En lisant aux scribes et aux pharisiens, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre ?»
Jésus a été envoyé sur terre par Dieu son Père pour faire du bien, pour faire œuvre de miséricorde, pour faire vivre et non faire mourir, pour sauver et non perdre. Il a donc guéri cet homme à la fureur des scribes et des pharisiens, un jour de sabbat, dans une synagogue. Jésus a été pour cet homme ce qu'il demandera à ses disciples d'être à leur tour, c'est-à-dire miséricordieux. Dans le sermon dans la plaine, ce qui correspond au sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, Jésus, après avoir dit à ses disciples « Aimez vos ennemis », ajoute, selon l'évangile de Luc, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Là où Matthieu disait « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Être parfait pour Luc, c'est donc être miséricordieux. Par son attitude de miséricorde et d'amour, le chrétien révèle au monde la perfection de Dieu, la nature intime de Dieu. Dieu est amour. Luc nous donne donc ici, dans ce chapitre 6, sa version du sermon sur la montagne, qui occupe trois chapitres entiers chez Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7. C'est beaucoup plus court dans l'évangile de Luc. La deuxième moitié du chapitre 6 seulement, et l'accent est souvent bien différent de Matthieu.
Chaque évangéliste, vous le savez, a regroupé et présenté les paroles de Jésus avec une accentuation propre, sans doute selon le contexte du moment où il écrit et selon les communautés à qui il s'adresse, et aussi selon les orientations théologiques qui sont les siennes. Les quatre évangélistes, selon la tradition orale ou les fragments d'écrits qui leur sont parvenus, et avec leur accentuation théologique propre, ont donc écrit leur évangile. Ces quatre évangiles qui font la richesse de notre Nouveau Testament, ces quatre évangiles complémentaires qui disent une même bonne nouvelle dans une riche diversité.
Peut-être certains d'entre vous préféreront-ils la version de Luc du sermon sur la montagne, mais beaucoup d'autres la version longue, plus spirituelle de Matthieu. Essayons de comprendre et de recevoir aujourd'hui cette version, ce message de Luc. Nous avons déjà dit que l'évangile de Luc, bien souvent, nous rappelle la théologie de l'apôtre Paul, avec une insistance sur le Saint-Esprit et sur la théologie du salut par grâce. Mais il faut dire aussi, par ailleurs, que Luc, qui a aussi écrit le livre des Actes des Apôtres, avec le récit de la Pentecôte dans le deuxième chapitre, et au quatrième chapitre, la description de la première communauté chrétienne pratiquant la mise en commun des biens, Luc insiste toujours aussi dans son évangile sur l'amour du pauvre. Luc est particulièrement tendre pour les pauvres et particulièrement sévère pour les riches.
Je rappelle les versets du chapitre des Actes, du chapitre 4, qui décrivaient une sorte de communisme chrétien. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, rapportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon ce qu'il en avait besoin. C'est pourquoi ce même Luc, dans les Béatitudes, ouvrant le sermon de Jésus, parle de la pauvreté tout court, et non pas en esprit comme chez Matthieu, et de la faim tout court, et non pas de la faim de justice comme chez Matthieu.
Heureux les pauvres, dit Luc, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux ceux qui ont faim maintenant, car vous serez rassasiés, etc. Donc, pour Luc, heureux les pauvres. Alors que pour Matthieu, c'était heureux les pauvres en esprit. Alors, qui a raison? Qui est le plus proche des paroles de Jésus? Quelle version préférez-vous entendre? Moi, je crois que nous ne devrions pas choisir, mais essayer de comprendre et de recevoir l'une et l'autre béatitude. Nous comprenons sans doute mieux la version plus spirituelle de Matthieu, qui est moins scandaleuse que celle de Luc, qui est moins abrupte que celle de Luc. Pauvre en esprit, cela veut dire être demandeur d'amour, humble, ouvert à l'esprit, priant et en attente.
How many times have you heard someone say, if I had his money, I'd do things my way.
Oh, but little they know. And it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was waiting in fortune and fame. Everything that I dreamed of to get a start in life's game. But suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. When my life is over and my time has run out, my friends and my loved ones, I'll leave that no doubt. But one thing is for certain, when it comes my time, I'll leave here for certain with a satisfied mind.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Et les pauses musicales sont de Ben Harper et les Blind Boys of Alabama.
Donc Matthieu, dans les Béatitudes, dit « pauvres en esprit », ce qui signifie « demandeurs d'amour, humbles, ouverts à l'esprit, priants et en attente ». Quant à Luc, il dit « pauvres, heureux les pauvres », sans doute pour corriger en quelque sorte l'injustice de nos situations humaines. Dieu n'a pas abandonné les pauvres comme les hommes les abandonnent. Dieu porte un regard différent du regard humain ordinaire sur chacune de nos situations humaines. Son regard sur nous fait la différence. Son appréciation sur nos vies aussi fait la différence. Le pauvre, aux yeux de Dieu, ne vaut pas moins que le riche. Dieu est un père de tendresse, c'est-à-dire qu'il est un père qui a un cœur maternel sur les pauvres, sur ceux qui ont faim, sur ceux qui pleurent. Comme une mère a un regard d'amour particulier pour celui de ses enfants qui est malheureux ou malchanceux, donc heureux les pauvres.
Cela ne veut pas dire qu'ils vivent vraiment un bonheur. Il n'est pas supportable d'être pauvre, de ne pas manger à sa faim, de pleurer. Nous devons, nous chrétiens, lutter de toutes nos forces contre ces malheurs. Nous devons partager avec les pauvres, comme dit le même Luc. Simplement, Jésus dit que Dieu est proche de ceux-là. Ils ont besoin de lui, de son amour, alors que les riches pourraient se concentrer et se contenter de leur richesse. Et alors, Luc ajoute toujours ces mêmes antithèses, terribles, des béatitudes, ces malédictions qu'on ne trouve pas du tout chez Matthieu. Luc ajoute donc « Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous les rassasiés. » Mot à mot les remplis, c'est-à-dire les gavés, les repus, car vous aurez faim, etc. Pour le reste du sermon, Luc reprend les paroles importantes du sermon sur la montagne, comme chez Matthieu. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, etc.
Sauf que Luc insiste à nouveau sur le thème du pauvre, sur le thème du don, puisque pour Luc, aimer ses ennemis, c'est aussi concrétiser l'amour pour le sacrifice par le sacrifice d'argent. Aimez vos ennemis, dit Luc, faites du bien, puis il ajoute, et prêtez sans rien espérer. Donnez, prêtez votre argent. Il insiste encore plus loin, donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous mesurez également. Donc, appel à donner, appel à la générosité. Il semblerait que pour Luc, le seul bon usage de l'argent, c'est de le donner, comme au chapitre 4 du livre des Actes, précisément, où les premiers chrétiens, nous l'avons vu, pratiquaient la communauté des biens. C'est ce même Luc, encore, le seul des quatre évangiles, qui racontera au chapitre 19, vous le savez, l'histoire du riche Zachée, dont la conversion se traduit immédiatement par une décision de générosité financière. La seule chose que dit Zachée à Jésus, du moins, la seule que rapporte Luc, c'est « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Après ça, il n'a pas dû lui rester grand-chose.
Et c'est alors que Jésus dit, toujours selon Luc, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. » Voilà, Jésus, selon Luc, est l'ami des pauvres et l'ennemi de la richesse. Je ne commenterai pas le reste du sermon dans la plaine chez Luc, mais précisément, il faut rappeler que si Luc parle d'un sermon dans la plaine, c'est sans doute pour rapprocher le discours de Jésus de la foule et de tous les pauvres. En effet, Jésus, dit Luc, monta sur la montagne et là, il choisit 12 disciples.
How sweet and happy seem those days of which I dream. In memory, I recall them now and then. And with a rapture sweet, my weary heart would be if I could hear my mother pray again. If I could only hear my mother pray again. If I could hear her tender voices then, how happy I would be. It would mean so much to me if I could hear my mother pray again. Around the old home place, her cherishing, smiling face was always bringing comfort, joy, and cheer. And when she used to sing to...
Jésus, dit Luc, monta sur la montagne et là il choisit 12 disciples. Mais alors que pour son sermon, Matthieu gardait Jésus sur la montagne, c'est-à-dire près de ses disciples, et que le sermon s'adressait donc principalement à eux, Luc insiste sur l'évangile universel de Jésus. N'oublions pas, là encore, que Luc est l'auteur du livre des Actes, c'est-à-dire de la mission en particulier de l'apôtre Paul parmi les païens, parmi les foules et dans le monde entier. Donc Jésus, chez Luc, descend de la montagne et c'est un sermon sur le plateau ou dans la plaine. Il descendit avec ses disciples, dit Luc, et il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire des régions païennes voisines d'Israël. Ils étaient venus, dit Luc, pour être guéris de leur maladie, et il les guérissait tous. Tout de suite après, Jésus prononce son sermon, toujours la même chose, ministère de guérison, ministère d'enseignement, ministère de pardon.
La guérison, on l'a déjà vu, ça se passe juste avant les Béatitudes, avec l'homme à la main sèche qui est guéri un jour de sabbat. Et dans le chapitre suivant, le chapitre 7, c'est la guérison du serviteur d'un centenier païen à Capharnaüm. Et Luc, au passage, souligne une fois encore la foi d'un païen. « Je vous le dis, dit Jésus, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Puis il y aura la résurrection du fils de la veuve de Naïn, avec l'étonnement des foules. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et tout de suite après, pourtant, au milieu du chapitre 7, Luc rapporte le doute et l'angoisse de Jean-Baptiste qui est en prison et qui envoie ses disciples à Jésus pour poser sa question, son incertitude, son doute et peut-être son insatisfaction. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
Jean-Baptiste, ici, c'est aussi nous. Avec nos questions, nos problèmes, nos doutes, nos découragements parfois. Si Dieu est vraiment là, Pourquoi tous nos problèmes ne sont-ils pas résolus? Pourquoi les souffrances de Jean-Baptiste dans sa prison? Pourquoi nos malheurs aux uns et aux autres, nos maladies, nos échecs, nos malchances, nos peurs? Nous aussi nous disons à Jésus, es-tu vraiment celui qui doit venir? Es-tu vraiment notre compagnon, notre sauveur? Et vous connaissez la réponse de Jésus à Jean-Baptiste, elle est aussi pour nous. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Nous retrouvons une fois de plus les pauvres comme une préoccupation première de Jésus dans l'évangile de Luc, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On leur annonce l'amour de Dieu pour eux, on leur donne pain et guérison, amour et bénédiction, heureux les pauvres, car ils sont visités, secourus, réconfortés, aimés. C'est vers eux, vers nous tous, que Jésus est envoyé pour guérir, pour consoler et pour faire vivre.
Time is gonna change you once it gets you on the run. Get you on the run. There will be since I was a child. Some call it free, and some call it wild. There will be a light. There will be a...
Pour terminer, je crois qu'il serait intéressant d'évoquer l'histoire de la pécheresse pardonnée à la fin du chapitre suivant, du chapitre 7. Là aussi, une histoire scandaleuse. Cette femme qui épanche son amour aux pieds de Jésus dans une maison convenable et de convenance, la maison d'un pharisien nommé Simon. Une femme pécheresse qui ose accaparer Jésus et pleurer. Pleurer sans doute de tristesse sur sa vie, mais aussi pleurer d'amour et de joie de rencontrer ce Jésus qui croit pour elle, qui croit malgré tout, qui ne désespère pas d'elle, et qui lui pardonne. Il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et c'est la troisième béatitude de Luc, « Heureux ceux qui pleurent maintenant, car vous rirez, vous serez dans la joie. » Et cette parole est pour nous aussi aujourd'hui, « Tes péchés sont pardonnés. » Et puis Jésus ajoute, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et devant l'étonnement scandalisé de Simon le pharisien, Jésus lui dit, ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé.
Et dans la suite de l'évangile, Jésus continue à guérir, à enseigner, à pardonner, à faire vivre. Mais il va commencer à évoquer sa mort au moment où il se met en marche pour aller de la Galilée vers Jérusalem. Tout son ministère sera un cheminement, une marche, une façon de semer l'évangile sur la route. Même si au bout du chemin, à Jérusalem, c'est la mort, la croix, mais aussi la résurrection. Sur cette route de Jésus, il y a tous ces malades, tous ces pauvres, toutes ces souffrances, mais aussi toute cette espérance.
Sur cette route de Jésus, il y a nous aussi. Cette histoire de l'évangile n'est pas terminée, elle est nôtre. Jésus nous rencontre et nous le rencontrons en cheminant avec lui à travers ces chapitres de l'évangile de Luc et des autres évangiles. Ceux qui ont besoin de guérir le rencontreront, ceux qui ont besoin d'être pardonnés le rencontreront, ceux qui ont besoin d'être reconfortés, mis debout, ressuscités, parce que ressusciter ça veut dire mis debout, ceux-là le rencontreront aussi. Dieu, le Père de Jésus-Christ, nous bénit, il bénit chacun de nous. Jésus nous dit à la fois « Donnez et l'on vous donnera », c'est notre vocation et notre mission. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. C'est notre grâce et c'est notre salut. Amen.
Amen.
Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matin à 10h30 au Temple protestant, 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
We're gonna make it to the church on time. We're gonna make it to the church on time. Put on your Sunday best, I'll put on mine. We've got to make it to the church on time. We've got to make it to the church on time. We're gonna make it to the church on time.